France Musique. Musicopolis. Trois scandales fatals. Si, à la lecture de la biographie de Bononcini, on peut proférer une sentence, c'est bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, tout du long, son parcours et sa carrière auront été émaillés d'incidents et d'épreuves. Mais aucun n'égale les trois derniers scandales qui ont eu lieu à Londres dans les années 1731 et 1732 et qui ont conduit le compositeur à quitter l'Angleterre. Des scandales qui ont terni à jamais son image et qui probablement sont encore aujourd'hui responsables de notre relatif désintérêt pour le musicien. Le nom de Bononcini n'est plus guère connu. Et avant d'en arriver aux trois scandales que je vous ai annoncés, je vais donc revenir en arrière et faire défiler la vie du compositeur. De cette manière, nous comprendrons mieux quelle était sa place lors des disputes qui ont eu lieu pendant son séjour à Londres. Retournons donc au début, à sa naissance en 1670 et à son enfance à Modène, pile entre Gênes et Venise. Giovanni Bononcini vient au monde à Modène dans une famille de musiciens. Mais il perd très tôt ses parents. À 8 ans, il est orphelin. Il a deux petits frères qui seront musiciens tous les deux. Giovanni fait ses études de musique à Bologne, grand centre musical de l'époque. Il est très précoce. Il publie ses premières œuvres à 15 ans, puis il est engagé à San Petronio, la cathédrale, comme violoncelliste et chanteur. À 21 ans, Bononcini est à Rome. Il compose des sérénades, des oratorios, des opéras. Son ouvrage « Il trionfo di Camilla », donné en 1696, fait un malheur. Les années suivantes, il est donné dans 19 villes italiennes, et au-delà, jusqu'à Londres. À 27 ans, Bononcini est à Vienne, employé par l'empereur avec un très gros salaire. Il voyage parfois en Allemagne, en Italie. Il est connu partout. En 1713, il a 40 ans, il retourne à Rome au service de l'ambassadeur d'Autriche. C'est là qu'en 1719, il est recruté par le comte de Burlington pour devenir l'un des compositeurs de la Royal Academy of Music de Londres, aux côtés de Handel. Ils seront collègues et un peu rivaux aussi. Les opéras de Bononcini sont cependant les plus souvent joués. Oh! À Londres, la musique de Bononcini a beaucoup de succès. Mais quant au compositeur lui-même, il n'a pas vraiment de chance. En tant que catholique romain, il a pour protecteur des personnalités associées au mouvement jacobite, opposé à la dynastie régnante des Hanovres. Dommage pour lui, d'autant plus que Handel, lui, est du côté du roi et de la reine en place. Cependant, Bononcini est engagé par la duchesse Enriqueta, duchesse de Marlborough, qu'il divertit de concerts deux fois par semaine. Les opéras de Bononcini ont un franc succès à Londres, jusqu'à la production de Astianate en 1727, production qui voit dégénérer l'opposition entre les deux prima donna, la soprano et la mezzo, à tel point que les deux chanteuses se crêpent le chignon sur la scène, dans les hurlements et les sifflets de la salle. Voilà déjà qui n'est pas très bon pour la carrière de notre compositeur. Le premier des trois scandales fatals à la carrière de Bononcini a lieu en 1731. J'ai eu l'occasion, dans un musicopolis consacré à l'Academy of Ancient Music, de raconter comment Maurice Green, l'un des membres fondateurs de cette institution, avait dirigé quelque temps auparavant un madrigal sans nom d'auteur intitulé « In una siepe ombrosa ». Le madrigal n'ayant pas de nom d'auteur, il a été attribué à Giovanni Bononcini. Mais trois ans plus tard, au cours de la séance du 14 janvier 1731 de l'Académie, Bernard Gates, autre membre fondateur et responsable de la maîtrise de la Chapel Royal, fait entendre la même pièce en affirmant qu'elle a été composée par le Vénitien Antonio Lotti. On s'interroge, on demande des comptes. Mais qui est donc le véritable auteur de « In una siepe ombrosa ». Les membres de l'Académie décident d'investiguer. Le secrétaire écrit à Lotti à Venise, lui demandant s'il est, oui ou non, le compositeur du madrigal. Dans cette lettre, le secrétaire informe Lotti que Bononcini revendique la paternité de la pièce, qu'il affirme l'avoir écrite 30 ans plus tôt sur commande de l'empereur Léopold d'Autriche et qu'il accuse Lotti, ni plus ni moins, de plagiat. Oh! la réponse de Lotti à l'adresse de l'Académie de Londres est toute diplomatie. Il affirme bien sûr être le compositeur du madrigal, il assure que les vers ont été faits à son intention et que la partition a été publiée peu de temps après avoir été écrite. Il en rappelle longuement l'historique. Il ajoute cette phrase pleine de générosité envers son collègue « Je vous prie de faire très attention et de vérifier que, pour faire une mauvaise farce à M. Bononcini, on ne lui a pas attribué cette lettre écrite à l'Académie à tort. » En effet, il paraît incroyable que, sage comme il l'est, il ait voulu prendre mes modestes travaux pour les siens. J'accélère un peu sur les échanges de lettres entre Londres et Venise, entre le secrétaire de l'Académie et Antonio Lotti. Lotti consent à envoyer des certificats pour prouver sa bonne foi, établis par ses amis les plus savants. Quant à Bononcini, il ne répond pas aux lettres et, en gros, il fait le mort. Il se retire de plus en plus de la vie musicale publique londonienne. Il se contente d'alimenter ses deux soirées par semaine pour la duchesse Enriquetta, sa patronne. Pour le musicologue britannique Lowell Lindgren, spécialiste de Bononcini, en fait, toute la lumière n'a pas été faite sur cette histoire de plagiat. Comme le notait Lotti lui-même, Bononcini n'avait aucune raison de s'attribuer un madrigal d'un autre compositeur, alors qu'il était lui-même parfaitement capable d'en écrire d'aussi bon. Et autant que l'on sache, à aucun moment, il n'a vraiment affirmé qu'il en était l'auteur. Le responsable de l'incident serait peut-être Maurice Greene, celui qui avait proposé le madrigal sans nom de compositeur. Pourquoi donc, vous demandez-vous? Peut-être tout simplement parce que Greene cherchait toutes les occasions pour mettre en valeur Bononcini aux dépens de Handel, à qui il vouait une haine farouche. Mais alors, encore une question, pourquoi Bononcini ne s'est-il pas défendu? Peut-être parce qu'à son avis, un tel mensonge tellement absurde ne méritait même pas d'être démenti. Comment et pourquoi lui, Bononcini, un compositeur fécond, pourrait-il recourir au plagiat? S'il avait sa conscience pour lui, il n'avait même pas besoin de répondre, n'est-ce pas? Et peut-être aussi voulait-il défendre son ami Maurice Greene, qui avait menti à l'origine.
Sento che mi stai, 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 mi stai
Le deuxième scandale, fatal à la carrière de Bononcini, concerne ses relations avec sa patronne, la duchesse Enriquetta. On ne connaît pas le fond de l'affaire, mais seulement ce qui en est apparu en surface. À savoir que Bononcini met fin à son emploi chez elle. Alors que c'était une position stable, très bien rémunérée, qui lui assurait d'être à l'abri du besoin, ce qui à l'époque était tout à fait enviable. Quelques commentaires de l'époque laissent à penser qu'il aurait suivi un aventurier, le comte Ougui, qui lui aurait fait croire qu'il possédait le secret de la fabrication de l'or. Pauvre Bononcini l'aurait suivi, lâchant la proie pour l'ombre. Le scandale, c'est surtout que la duchesse est furieuse et le fait savoir. Elle se sent fort marie de cet abandon et elle va beaucoup s'en plaindre. À l'été 1731, on trouve notre Bononcini à Paris. Il s'est éloigné de Londres, du scandale du plagiat du madrigal de Loti et de la duchesse Enriquetta. Quelques mois plus tard, cependant, il revient en Angleterre. Au printemps 1732, on lui demande de composer une sérénade pour être donnée à l'opéra à la fin du mois de juin avec la participation de la soprano Anna Maria Strada del Po. Cette chanteuse, qui a travaillé à Venise avec Vivaldi et à Naples avec Porpora, a été engagée par Handel pour s'accompagner. Mais peu avant le concert, paraît dans le Daily Post un article qui informe ses lecteurs que Madame Strada refuse de travailler avec Bononcini. La sérénade n'a plus d'interprète, le concert est à l'eau, troisième et dernier scandale. Après le refus de la Strada de chanter pour Bononcini, certains ne sont pas longs à dénoncer une collusion de malveillants qui se serait acharnée sur le compositeur. collusion ou non, cette fois-ci c'est assez. Bononcini va quitter Londres et l'Angleterre pour de bon. Il a 62 ans, il lui reste 15 ans à vivre, qu'il va passer dans divers pays, en France, en Espagne, au Portugal, pour finir à Vienne avec une toute petite pension de l'impératrice Marie-Thérèse. Malgré tous ces scandales, Bononcini a toujours gardé des partisans, comme ce Samuel Johnson qui écrit dans la préface d'un texte publié en mai 1832 « En ces jours, vit à Londres, sans trop d'encouragement, le célèbre monsieur Bononcini, dont la musique céleste restera encore dans l'âme comme un souvenir indélébile, même après que le feu aura tout détruit dans ce monde. » L'air « Ombra mai fu », extrait du Zerse de Giovanni Bononcini et dont Handel se serait inspiré, c'était ici Simone Kermes, soprano, avec l'ensemble Les Musiche Nove, dirigé par Claudio Ocelli. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Pierrick Charles pour le mixage et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.